Dans la course mondiale aux vaccins ou aux médicaments contre le nouveau coronavirus, les chercheurs tentent de rattraper le virus qui, pour l'instant, est en tête. Des essais cliniques sont en cours en Chine, aux États-Unis, en Europe. La communauté scientifique peut s'appuyer sur des expériences du passé, mais comme nous le disait un microbiologiste il y a quelques jours dans cette émission, le temps de la recherche n'est pas le temps des épidémies, et ça, il faut l'accepter. Bonjour Francesca Girofo.
Bonjour Eric.
Dites-nous où on en est maintenant dans cette course vitale contre le virus.
Disons que si on parle de vaccin, ça va prendre du temps, c'est une course de fond. Plusieurs laboratoires et entreprises sont sur les rangs, dont les géants Johnson & Johnson ou Sanofi. Récemment, une pharma de Cambridge a développé un candidat vaccin avec les instituts nationaux de santé américains. Les premiers essais cliniques ont débuté, mais il ne pourra pas sans doute être mis sur le marché avant un an et demi.
Et puis les traitements destinés, eux, à soigner des personnes déjà malades ?
Oui, on parle beaucoup d'un antiviral expérimental développé par l'américain Gilead et destiné à l'origine à combattre la maladie Ebola. Il est testé en Chine et bientôt un peu partout dans le monde. Il pourrait être à disposition d'ici la fin de l'année, mais c'est vraiment très hypothétique. Et puis, il y a la chloroquine, un antipaludique qui a déclenché un intérêt planétaire après qu'un professeur marseillais ait effectué une étude contestée aujourd'hui par pas mal de ses pairs.
Et est-ce qu'il y a une collaboration entre les laboratoires publics et privés pour éviter de perdre des forces et du temps en se dispersant ?
Il y a certainement plus de coopération aujourd'hui qu'il y a quelques années et l'OMS a relancé récemment un projet qu'elle avait initié lors de la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Sylvie Briand, directrice du département épidémie et pandémie, explique ce protocole appelé Solidarité.
Ce que l'on essaye de faire, c'est véritablement de coordonner les différents groupes de recherche qui font ces essais cliniques de façon à ce que d'une part, ils aient la même méthodologie pour qu'on puisse comparer les résultats entre les différents pays. Et puis, ça permet d'accélérer aussi le recrutement des patients, puisque si chaque étude recrute une centaine de patients, on arrive vite à un grand nombre de patients et puis d'aboutir à des résultats probants.
Mais il n'y a pas que cela. Je parlais de Gilead et de son antiviral expérimental. L'entreprise pharmaceutique collabore avec plusieurs centres dans le monde. La Suisse est concernée avec une cinquantaine de patients au Tessin, à Zurich, à Genève. Alexandra Calmi, spécialiste des maladies infectieuses aux hôpitaux universitaires, va débuter des essais cliniques de phase 3 la semaine prochaine.
Il s'agit d'un produit qui se donne par voie intraveineuse chez des patients qui sont hospitalisés. Donc on est dans une situation déjà d'urgence dans l'hôpital, de tension au niveau des ressources humaines qui sont disponibles pour faire l'étude. Et donc nous sommes en train de nous préparer, de nous organiser pour rendre le travail le plus facile possible pour les équipes soignantes, mais aussi pour garder la rigueur qui est propre à celle d'un essai clinique.
Pour Alexandra Calmi, c'est clair.
Il s'agit d'une étude dont le sponsor est la firme pharmaceutique qui fabrique le médicament. Nous avons aussi d'autres études qui sont en cours de discussion au sein même de notre institution, qui sont des études avec des sponsors de santé publique. Et là, on voit bien aussi l'importance de la course contre la montre. On doit mettre à disposition des médicaments, mais on ne doit pas sacrifier non plus, nous assurer non seulement de leur sécurité, mais aussi de leur efficacité.
Et Francesca, comment faire pour que ces médicaments, s'ils s'avèrent efficaces, puissent aussi bénéficier aux pays les plus pauvres, en Afrique par exemple ?
C'est bien ce qui inquiète Bernard Pécoul, directeur de DNDI, Drug for Neglected Disease Initiative, et habitué au partenariat public-privé.
Il y a un déséquilibre total entre le nombre d'essais cliniques qui se passent soit en Chine, soit en Europe, soit en Amérique du Nord, qui sont probablement au nombre de 500, et moins de 10 essais qui se déroulent dans les pays du Sud. Il est évident qu'il va falloir rééquilibrer un petit peu la chose. On peut utiliser les connaissances qui sont obtenues au Nord. Simplement, il va falloir s'assurer qu'elles soient adaptées et qu'elles puissent produire les mêmes effets dans des hôpitaux qui sont beaucoup moins sophistiqués, avec un personnel qui n'a pas la même formation ou les mêmes protections afin de délivrer ces traitements.
L'autre danger, c'est que des pays stockent des médicaments déjà connus, par exemple la chloroquine, en attendant de voir si les essais sur le coronavirus sont concluants.
Et alors, au cas où on trouve le médicament miracle, il fera l'objet d'un brevet, il faudra le produire en grande quantité. Les pharmas collaborent, d'accord, mais elles voudront aussi un retour sur investissement.
Oui, aux États-Unis, certains parlent déjà de prolonger au-delà de 20 ans la durée des brevets, alors que Bernie Sanders prône, lui, la gratuité d'un éventuel traitement. Mais pour Bernard Pécoul, il n'y a pas de doute.
Face à une telle crise, on ne peut pas se permettre la stratégie qui consiste à protéger un marché lucratif pendant une longue période de temps qui est conférée par les brevets et ensuite mettre à disposition pour les populations les plus défavorisées. Je crois que tout doit se passer simultanément. Il y aura une obligation morale puisque on est vraiment dans des clauses de priorité de santé publique, une situation de pandémie qui nécessite une réponse exceptionnelle.
De son côté, le professeur Bernard Hirschel, grand spécialiste de la lutte contre le sida, pense qu'il faudrait s'inspirer de la commercialisation des médicaments contre le VIH.
Il y a des lieux de production alternatifs, par exemple en Inde ou en Chine, en Afrique du Sud, qui ont fourni des médicaments très bon marché, hors patente, dans les pays pauvres. Et je crois qu'on pourrait prendre cette voie. Mais encore une fois, l'obstacle principal, ce n'est pas les patentes ou autres. L'obstacle principal à un médicament, c'est qu'il n'existe pas encore et que de le développer et de le tester et produire en grande quantité prendra du temps, le temps qu'on n'a pas à l'heure actuelle.
Un constat réaliste, à défaut d'être pessimiste, qui fait dire à Sylvie Briand de l'OMS qu'avant de faire des plans sur la comète, il faut d'abord appliquer des mesures de prévention et de santé publique, rodées et bien connues.
Merci Francesca Girofo.